Servir avec subtilité. Dans le grand art de servir une des tâches les plus subtiles, c'est de servir un ambitieux effréné qui, s'il est en toute chose l'égoïste le plus fieffé, ne veut à aucun prix passer pour tel. C'est là justement une partie de son ambition, qui exige que tout soit fait selon sa volonté et son humeur, et pourtant toujours de façon à ce qu'il ait l'air de se sacrifier et de vouloir rarement quelque chose pour lui-même. Le duel. Je considère comme un avantage, disait quelqu'un, de pouvoir provoquer un duel quand j'en ai un besoin impérieux, car il y a toujours de braves camarades autour de moi. Le duel est le seul moyen de suicide absolument honorable qui nous soit resté. C'est malheureusement un moyen détourné, et encore n'est-il pas tout à fait sûr. Néfaste. On guette le plus sûrement un jeune homme en l'instruisant à estimer plus haut quelqu'un qui pense comme lui que quelqu'un qui pense autrement. Le culte des héros et ses fanatiques. Le fanatique d'un idéal qui possède chair et sang a généralement raison tant qu'il nie, et dans sa négation il est terrible. Il connaît ce qu'il nie aussi bien que lui-même, par la raison bien simple qu'il en vient, qu'il y est chez lui et qu'il craint toujours secrètement d'être forcé d'y revenir. Il veut se rendre le retour impossible par la façon dont il nie. Mais dès qu'il affirme, il ferme à moitié les yeux et se met à idéaliser. Ce n'est souvent que pour faire mal à ceux qui sont restés dans la maison qu'il a quittée. On appellera peut-être artistique la forme de son affirmation, fort bien, mais elle a aussi quelque chose de déloyal. L'idéaliste d'une personne place cette personne tellement loin de lui qu'il ne peut plus la voir distinctement, et maintenant il interprète en beau ce qu'il peut encore apercevoir. C'est-à-dire qu'il en considère la symétrie, les lignes indécises, le manque de précision. Puisque, dès lors, il voudra adorer cet idéal qui flotte dans le lointain et dans les hauteurs, il lui faut construire pour le protéger contre le profanum vulgus un temple à son adoration. Il y apporte tous les objets vénérables et sanctifiés qu'il possède encore, pour que l'idéal bénéficie de leur charme et que cette nourriture le fasse grandir et devenir toujours plus divin. En fin de compte, il a véritablement réussi à parachever son dieu, mais malheur à lui. Il y a quelqu'un qui sait comment tout cela s'est passé, c'est sa conscience intellectuelle, et il y a aussi quelqu'un qui, tout à fait inconsciemment, se met à protester. C'est le divinisé lui-même qui, sous l'effet du culte, des louanges et de l'encens, devient maintenant complètement insupportable et trahit, de la façon la plus évidente et la plus horrible, sa non-divinité et ses qualités beaucoup trop humaines. Alors il ne lui reste plus à notre fanatique qu'une seule issue. Il se laisse patiemment maltraiter, lui et ses semblables, et il se remet à interpréter toute cette misère, encore in maiorem dei gloriam, par une nouvelle espèce de duperie de soi et de noble mensonge. Il prend parti contre lui-même, et il ressent ainsi, maltraité et en interprète de ce mauvais traitement, quelque chose comme un martyr. De cette façon, il arrive au sommet de sa présomption. Des hommes de cette espèce vécurent par exemple dans l'entourage de Napoléon. Oui, c'est peut-être justement lui qui a jeté dans l'âme de ce siècle cette prostration romanesque devant le génie et le héros, si étrangère à l'esprit rationaliste du siècle dernier. Lui, devant qui un Byron n'avait pas honte de dire qu'il n'était qu'un ver à côté d'un pareil être. Les formules d'une semblable prostration ont été trouvées par Thomas Carlyle, ce vieux grognon embrouillé et prétentieux qui s'est employé, sa longue vie durant, à rendre romantique la raison de ces Anglais, en vain.